Bienvenue sur RFI, il est tout juste 16h à Paris, 22h à Pékin.
Olivier Sherman.
La riposte chinoise, après les annonces de Donald Trump, Pékin va imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès jeudi prochain. La Chine qui va aussi saisir l'Organisation mondiale du commerce pour s'opposer à la politique américaine. Gros plan dans ce journal sur l'Inde avec Léa Ojal, également frappée par les mesures américaines. Des frappes israéliennes toujours meurtrières dans la bande de Gaza. Près de 1200 Palestiniens ont été tués depuis la reprise des bombardements. Reportage de nos correspondants dans la région sur le dispensaire médical de Jabalia, bombardé cette semaine. Le bilan est lourd et les dégâts sont considérables. Une loi votée en Colombie pour venir en aide aux enfants orphelins par féminicide. Au moins 23 000 enfants ont perdu leur mère dans ce pays à cause de ces violences. Notre correspondante en Colombie reviendra en détail sur cette nouvelle loi. La réponse donc de la Chine deux jours après les annonces de Donald Trump sur les droits de douane. Pékin va imposer des droits de douane supplémentaires de 34% sur les produits américains dès jeudi prochain. La guerre commerciale entre les deux plus grandes économies mondiales s'aggrave donc. La Chine annonce également saisir l'Organisation mondiale du commerce pour s'opposer à la politique américaine. Tous les pays sont frappés par les décisions de Donald Trump. L'administration américaine a ainsi imposé des droits de douane pouvant aller jusqu'à 27% sur certains produits indiens. Une mesure protectionniste qui a ralenti certaines exportations. Pourtant, malgré ce tour de vis, l'Inde conserve un avantage comparatif par rapport à ses voisins asiatiques comme la Chine ou le Vietnam, bien plus durement touchés par les barrières douanières américaines. À New Delhi, les explications de Léa Ojal.
New Delhi veut à tout prix éviter une guerre commerciale. Le mois dernier déjà, le pays safran l'avait désamorcé en ouvrant le marché indien de la téléphonie à Elon Musk, bras droit de Trump, avec l'implantation de Starlink en Inde. Malgré sa proximité et son amitié affichée avec Washington, l'Inde n'échappe pas aux droits de douane réciproques. L'Inde a annoncé sa volonté d'abaisser ses droits de douane sur 23 milliards de dollars de produits américains. Certains secteurs sont moins touchés, comme les services informatique ou les médicaments génériques soumis à des taxes très faibles. En 2024, les exportations de médicaments indiens vers les États-Unis ont atteint 7,3 milliards d'euros. En revanche, l'industrie automobile est sous pression. Après l'instauration de droits de douane de 25% sur les voitures, l'enseigne phare Tata Motor a chuté de 4,68%. Léa Ojal, New Delhi, RFI.
Et on continue de parler de ces droits de douane exorbitants annoncés par Donald Trump. Un risque important pour les perspectives mondiales, a déclaré hier la directrice du FMI. Comment analyser les réactions qu'elles ripostent désormais, notamment côté européen, alors que l'Union européenne fait partie des plus sévèrement touchées avec 20% de droits de douane annoncés. Est-il encore réaliste de vouloir négocier? La réponse de Shaheen Vallée, ancien conseiller du président du Conseil européen, ancien conseiller d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, aujourd'hui chercheur au Conseil allemand pour les affaires étrangères. On l'écoute, Shaheen Vallée.
Moi, je pense que négocier strictement sur les questions commerciales, ce n'est plus possible. Et je pense qu'au fond, ce que Donald Trump et en tout cas une partie de son équipe veulent, c'est une négociation beaucoup plus large. Et une négociation d'ailleurs qui ne serait pas forcément à notre désavantage. Je pense notamment à la question du taux de change. Aujourd'hui, une partie de son équipe considère qu'au fond, le cœur du problème, c'est la surévaluation structurelle du dollar, dont on peut débattre. Mais leur argument à eux, c'est que puisque le dollar est une devise de réserve internationale, le dollar est structurellement surévalué et donc cette surévaluation structurelle crée un déficit commercial. Nous, Européens, aurions peut-être intérêt à lancer une négociation multilatérale avec la Chine, le Japon, les États-Unis et indiquer que nous serions prêts à un ajustement des taux de change mondiaux, à une baisse éventuelle du dollar, une appréciation modérée de l'euro, du yen et surtout de la devise chinoise qui permettrait de résorber les excédents courants européens, les excédents chinois et japonais. Et donc je pense que dans un grand deal comme ça, nous pourrions peut-être sortir par le haut de cette crise économique et commerciale. Moi, je crains que en limitant la négociation aux sujets commerciaux, nous ayons beaucoup de mal à trouver une issue.
Shane Vallée qui était l'invité ce matin de Julien Coquel-Rohem. Cette annonce de la Chine et cette guerre commerciale entre Washington et Pékin fait replonger les bourses européennes. La bourse de Francfort dévisse de 4,46%, Paris chute de 3,6% et Milan dégringole de plus de 7%. Wall Street qui vient de commencer chute encore dès l'ouverture. Le Dow Jones est à moins 2,34%. Donald Trump affirme dans ce contexte, dans un message sur sa plateforme Truth Social, qu'il ne changera jamais de politique. Aux nombreux investisseurs qui viennent aux États-Unis investir d'énormes montants d'argent, sachez que je ne changerai jamais de politique. C'est un bon moment pour devenir riche, plus riche que jamais, écrit le président américain en lettres majuscules.
RFI, Radio France Internationale.
Des frappes israéliennes meurtrières dans la bande de Gaza. Mi-mars, l'État hébreu a rompu unilatéralement la trêve en vigueur dans l'enclave. Le ministre de la Défense israélien avait alors fait porter toute la responsabilité de la situation aux civils de Gaza. Rendez les otages et chassez le Hamas ou nous prendrons des mesures jamais vues auparavant, avait averti Israël Katz. Et il a mis ses menaces à exécution. Près de 1200 Palestiniens ont été tués depuis la reprise des bombardements. Les raids aériens s'abattent de manière indiscriminée sur la population, comme dans ce dispensaire médical de Jabalia, bombardé cette semaine. Notre correspondant à Gaza, Rami Al-Megari, a constaté les dégâts sur place. Son reportage avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Le bâtiment visé, un centre de santé de l'ONU où avaient trouvé refuge 160 familles palestiniennes déplacées. Les flammes ont dévoré tout un étage. La frappe a fait une vingtaine de morts, parmi lesquels 9 enfants. C'est un massacre, raconte Khaled, un survivant.
Les enfants tués étaient très jeunes. Le plus âgé avait 9 ans et la plus jeune une dizaine de jours. On a retrouvé son corps, mais pas sa tête.
Des photos et des vidéos de la dépouille du nourrisson mutilé ont été partagées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme que des membres du Hamas se trouvaient à cet endroit. Faux dément cet autre survivant, Hussein.
Il n'y avait aucun combattant, il n'y avait aucune arme ici. Nous avons été surpris par une première frappe, puis une seconde, je crois, sans avertissement préalable. Ce ne sont d'ailleurs que des civils qui sont morts, des femmes, des hommes et des enfants ont été tués. Ici, c'est un simple centre d'accueil de l'UNRWA.
L'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, explique avoir pourtant transmis les coordonnées géographiques du bâtiment à l'armée israélienne et précise que de nombreuses familles restent sur place car elles n'ont nulle part où aller. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Boukhalifa, Jérusalem, RFI.
Et puis l'armée israélienne a intensifié ses frappes en Syrie et au Liban voisin, tuant avant l'aube deux membres de la branche armée du Hamas dans un raid aérien contre un bâtiment à Saïda, ville du sud de Liban. La frappe est intervenue malgré le cessez-le-feu qui a mis fin le 27 novembre à une guerre meurtrière entre le Hezbollah libanais pro-iranien, allié du Hamas, et Israël. Les brigades Ezzedine al-Qassam confirment dans un communiqué la mort du commandant Hassan Ahmad al-Farah, son fils également membre des brigades de sa fille. Et puis, tout de suite, nous prenons la direction de la Colombie avec une loi qui a été votée pour venir en aide aux enfants orphelins par féminicide. 23 000 enfants ont perdu leur mère dans ce pays à cause de ces violences. Notre correspondante en détail sur cette nouvelle loi.
Il n'existe pas de chiffres officiels sur les féminicides en Colombie. Mais d'après le Défenseur du Peuple, l'an dernier, 745 féminicides ont été signalés. C'était l'année la plus meurtrière depuis le début du recensement de ces délits en 2018. Alors, la nouvelle loi permettra une meilleure prise en charge des enfants et adolescents qui dépendaient économiquement d'une mère victime de féminicide. Le texte stipule qu'ils auront un accès préférentiel à des programmes d'éducation et à des soins psychosociaux et de gestion du deuil, en plus d'une assistance financière régulière. Un système de protection est aussi prévu concernant cette aide financière, l'idée étant d'éviter qu'elle ne se retrouve entre les mains du père, qui est souvent l'auteur du féminicide. L'âge maximum pour bénéficier de ces prestations est de 25 ans. Cette loi donnera aussi naissance à un registre des enfants et adolescents orphelins par féminicide afin de permettre une surveillance continue du mineur et d'assurer sa protection. Le Congrès a donc voté cette loi ce mercredi. Il ne manque plus que la signature du président pour l'officialiser. Najed Ben Rabah, Medellin, RFI.
Enfin, l'armée birmane restreint l'accès à l'aide humanitaire pour les victimes du tremblement de terre survenu fin mars dans les régions où elle considère qu'il y a une opposition à la junte militaire au pouvoir. C'est ce que déclare le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le bilan du séisme de magnitude 7,7, l'un des plus violents à frapper la Birmanie depuis un siècle, s'est alourdi à plus de 3100 morts selon la junte. Passez une excellente après-midi sur RFI. Tout de suite, c'est pas du vent.